Bonsoir à tous, bonsoir Olivier.
Bonsoir Alain, bonsoir à tous.
Chaleur, canicule, nous allons faire un point précis sur la situation du jour avec des relevés de température bien au-delà des 35 degrés. On avait même 38 degrés du côté de Lyon, c'est ce qu'affiche l'écran de cette pharmacie. Les pompiers, nous serons avec eux, nous serons auprès des couvreurs parce que travailler sur les toits par ce temps, c'est infernal, mais que voulez-vous ? Il faut assurer ce chantier et puis on verra ce que nous réservent les jours prochains. La guerre, 88e jour, les frappes américaines contre des sites de missiles iraniens. La force, c'est ce qu'on dit à la Maison-Blanche, la force pour pousser Téhéran à signer. Nous serons donc à Washington, nous serons aussi à Téhéran, nous serons à Beyrouth où l'armée israélienne continue de pilonner les positions du Hezbollah. Et puis ce soir, la politique aura tous ses droits dans le signé consigné. Les sondages placent toujours Jordan Bardella en tête des intentions de vote au premier tour de la prochaine élection présidentielle. Et même gagnant au second tour face à Édouard Philippe. Bardella, Jordan Bardella est-il gagnant trop tôt avant même d'avoir combattu ? Débat entre Charles Consigny tout à l'heure et Sébastien Chenu, le vice-président du Rassemblement National. C'est donc une journée chaude, très chaude, une journée caniculaire, 38 degrés relevé à Lyon, dans le centre-ville. C'était le relevé de cet écran de pharmacie. Du côté de Chantenay aussi, Chantenay en Vendée, on a eu un 37 degrés. On a 13 départements qui seront en orange demain. Et puis, il faut avoir une pensée pour tous ceux qui sont au boulot, à la tâche, qui ne peuvent pas faire autrement parce qu'il y a des chantiers à assurer. On va donc retrouver Isor de la Gorce. Elle est dans les Hauts-de-Seine, à la Garenne-Colombes pour BFM TV. Elle a passé une partie de l'après-midi avec des couvreurs, Isor.
Tout à fait. Et je peux vous dire que c'est particulièrement compliqué pour eux de travailler sur les toits parce qu'il fait encore plus chaud quand on est à 7 mètres, 8 mètres de hauteur. On va en parler tout de suite avec Bradley. Vous êtes couvreur, vous avez passé une partie de la journée sous les toits. Comment est-ce qu'on fait pour travailler dans ces conditions ?
Bah écoutez, comme on peut le voir ici avec Steven, le patron, il nous apporte des glacières avec des bouteilles d'eau. Donc on a la chance de s'hydrater toute la journée. De toute manière, il le faut, j'ai envie de vous dire. Et on fait en sorte de s'adapter.
Et vous avez aménagé également, là c'est la fin du chantier, vous avez aménagé vos horaires, c'est ça ?
C'est ça exactement, donc on fait en sorte de stopper, de faire une bonne pause entre midi et deux, histoire d'attendre quand même que les grosses chaleurs passent, et on travaille plutôt en fin d'après-midi, en début de matinée.
Parce que pour qu'on se rende bien compte, quand on regarde le toit, là il n'y a pas de zone d'ombre, il faut être particulièrement vigilant parce que vous êtes en hauteur, c'est ça ?
Exactement, c'est ça, donc comme je vous le disais, il faut savoir être vigilant, donc chez nous, chez les compagnons du bâtiment, on a su prendre nos précautions, donc si je peux faire passer un message aux autres couvreurs, soyez vigilants.
Bah, merci beaucoup en tout cas, et on vous souhaite bon courage pour le reste de la semaine, parce que les températures vont continuer à être élevées, ici il fait 32 degrés.
Heures de la Gorce avec Jérémy Paoloni à la Garenne-Colombes pour BFM TV. Alors Virginie, on va regarder les températures, les relevés du jour.
Oui, bonsoir. Exactement. Bonsoir à tous. Effectivement, avec de nombreux records mensuels de chaleur qui ont été battus à 16 heures, donc plus de 300 donc enregistrés. Alors évidemment, cette liste va s'allonger puisque les températures vont continuer de progresser au moins jusqu'à 18 heures. Donc c'est entre les Deux-Sèvres, l'Indre et la Vienne qu'on enregistre le plus donc de records aujourd'hui. Et les températures les plus élevées, alors c'est pas un record, on montrait Chantenay à Vendée, en Vendée, et il a fait 37 degrés, mais c'est une température qui est quand même effectivement
très élevé. Il a fait plus chaud aujourd'hui qu'hier ?
Oui, un petit peu plus chaud, effectivement. On a des températures qui sont localement 1 à 2 degrés de plus qu'hier. Et ce n'est pas fini puisqu'on n'a pas atteint le pic.
Donc, c'est-à-dire que demain, il fera encore plus chaud ?
Demain, il fera encore plus chaud et c'est la raison pour laquelle la liste des départements qui ont été placés en vigilance orange s'est allongée donc, tout à l'heure à 16 heures. On a rajouté les Côtes d'Armor parce qu'il a fait très chaud aujourd'hui. C'était le seul département breton qui n'était pas en vigilance orange. On a rajouté les Deux-Sèvres, les Charentes. La Gironde à Bordeaux, on attend 36 degrés demain, possiblement 37, voire 38 d'ici vendredi. Donc ça s'annonce assez insupportable.
Est-ce qu'on voit la fin de cet épisode caniculaire sur les prévisions ?
Alors, on a beaucoup de mal. Finalement, de jour en jour, eh bien, ça se rallonge un petit peu. Pour le moment, on voit une fin sur la moitié sud d'ici dimanche. Sur la moitié nord, je vous disais hier, plutôt jeudi, ben là ce sera plutôt vendredi finalement. Ça va baisser un petit peu. Alors normalement, les départements bretons devraient sortir de la carte de vigilance donc entre jeudi et vendredi matin. Et même chose, après ça va se faire vraiment progressivement. Mais c'est vrai que plus on regarde les modèles météorologiques, plus on voit des températures qui augmentent de jour en jour.
Ce que je comprends pas, c'est qu'il fait chaud chaud partout en France. Il y a seulement 13 départements en orange. Comment l'expliquer ?
Parce qu'en fait, une canicule, alors c'est une définition bien précise, il faut atteindre des seuils donc de température minimale et maximale sur au moins 3 jours. Et si les départements ne sont pas en orange, c'est tout simplement qu'on ne les atteint pas. Alors ça ne peut pas dire qu'il ne fait pas chaud, parce qu'on a placé en premier, donc c'est vrai, les départements bretons, parce que les seuils sont plus bas. Tout simplement parce
les seuils ne sont pas les mêmes en fonction des départements.
Pas du tout. Par exemple, Brest, on est à 20 la nuit, 31 la journée. Vous prenez par exemple la Gironde, c'est 35 pour Bordeaux l'après-midi et c'est plutôt 22 pour la nuit. Donc
ça veut dire que la perception de la chaleur n'est pas la même en fonction de là où on habite, bien entendu.
Habitué, voilà, c'est vrai, dans le sud-ouest que dans le nord-ouest, tout simplement.
On va au Blanc-Ménil retrouver Kevin Eliès en direct pour BFM TV. Il est en Seine-Saint-Denis. Et c'est vrai qu'on s'interroge dans ces cas-là. On imagine que les gens arrivent aux urgences et qu'il y a en fait des moments d'inquiétude à avoir, les signes qui font que on commence à se sentir mal aussi, Kevin.
Eh ben effectivement, alors faut noter qu'ici dans cet hôpital au Blanc-Ménil, pour l'instant il n'y a pas tellement eu de patients pour ces raisons de canicule. Mais ce qu'on m'explique ici, c'est que ces patients, ils n'arrivent pas forcément au début de la canicule, mais plus à J+2, J+3. Et on va en parler justement avec le docteur Ghanem. Bonjour docteur. On est ici dans cet hôpital. Alors déjà on le voit, vous êtes préparé. Il y a des clims un petit peu partout.
Oui, tout à fait, on s'est préparé après l'épisode de 2003 qui avait fait énormément de morts. C'est vrai que la France, globalement, les hôpitaux français se sont quand même tous un petit peu préparés. On a mis en place des climatisations, des chambres climatisées, des ventilateurs, de l'eau à disposition des patients. On s'assure bien évidemment qu'il y ait assez d'eau pour tout le monde. Ça, c'est une chose. Après, en règle générale, il faut essayer de...
Parce que moi, j'ai une question qui me vient. Parce qu'avec ces fortes températures, on est d'accord qu'il ne faut pas aller à l'hôpital. Dès qu'on a chaud, à quel moment est-ce qu'on se dit « le signe est inquiétant, je dois aller aux urgences » ?
Alors, il y a plusieurs signes qui peuvent être inquiétants, des signes de déshydratation, notamment les fatigues extrêmes, les malaises, la fièvre. L'absence de transpiration, ça peut être un des signes aussi, d'accord ? Donc tout ça, c'est à surveiller. Généralement, ceux qui sont essentiellement frappés par la déshydratation, ce sont les personnes âgées, donc des patients qui sont généralement sous traitement pour certaines pathologies. Donc il faut faire attention aussi. Il y a pas mal
les
de
plus jeunes aussi qui sont à risque.
Les plus jeunes sont à risque également, mais les familles et les parents les surveillent quand même beaucoup plus. Si vous voulez, chez les patients âgés, il y a énormément de gens qui sont isolés, et donc c'est de ces personnes-là dont il faut extrêmement se méfier. C'est pour ça que si vous avez des personnes dans votre famille qui sont isolés, essayez quand même de garder un contact avec eux. Ça, c'est important. Pour les personnes âgées, si vous sortez, sortez plutôt le matin. Évitez de sortir en plein après-midi où il fait chaud. Si vous sortez, mettez un chapeau, pensez à vous hydrater, prenez une bouteille d'eau avec vous. Ça, c'est important. Tout ce genre de petites choses, ça peut éviter une hospitalisation. Et surtout, si vous avez des pathologies chroniques telles que l'insuffisance cardiaque ou le diabète, il faut savoir que ce sont des facteurs de risque. Et des fois, il faut peut-être voir le médecin traitant pour adapter un petit peu le traitement, notamment quand il y a des diurétiques qui sont en place. Ça peut précipiter une déshydratation.
Eh bien, merci beaucoup, docteur, pour tous ces conseils. Écoutez évidemment avec beaucoup d'attention.
Voilà, Kevin Eliès à l'hôpital du Blanc-Ménil avec Julie Benmoussa pour BFM TV.
Margot Frouville, chef du service santé de BFM TV. Donc pour l'instant, pas trop de monde à l'hôpital. Ça veut dire que les Français savent maintenant quoi faire en cas de canicule.
C'est un peu tôt, mais on voit déjà une augmentation des appels au SAMU, qui est un peu le premier indicateur que l'on surveille en début de vague de chaleur. On voit par exemple dans la Manche, il y a une augmentation de 30% des appels qui étaient enregistrés entre le 22 et le 25 mai. Après, est-ce que ça se concrétise par un passage aux urgences ? Il y a une augmentation de 5 et 15%. Selon mes informations de fréquentation dans la Manche, avec la chance que par rapport à l'année dernière ou les autres week-ends, il y avait des lits d'aval cette fois, donc ça n'a pas été l'apocalypse pour ce qui concerne la Manche. À Rennes aussi, on voit une augmentation des appels, plus 30%. Par exemple, sur la seule journée d'hier, on était quasiment à 2500 appels au SAMU contre 1800 habituellement à cette période. Donc on voit que ça progresse et ça se traduit au passage aux urgences par 20% de passages en plus. Donc ça commence, mais encore une fois, il y a des conséquences qui peuvent se manifester au bout de plusieurs jours. Et l'Île-de-France, on voit, est un peu moins touchée.
Il y a quand même ce chiffre qui interpelle, qui a été confirmé par le gouvernement aujourd'hui. 7 morts depuis le début de cet épisode caniculaire. Alors, pas tous liés directement à la chaleur, parce qu'il y a 5 morts par noyade, on en parlera d'ailleurs dans un instant. Donc, de l'imprudence Et puis aussi, encore une fois, le manque de réflexe, le manque de bon sens lorsqu'il fait trop
chaud. Oui, le manque de bon sens, et je fais le lien avec ce que vous disiez à l'instant en termes de chiffres et de nombre d'appels. C'est vrai qu'il y a les appels vers le SAMU qui demandent aussi forcément des renseignements supplémentaires parce qu'il y a de l'inquiétude, notamment sur les personnes les plus vulnérables. C'est pas forcément qu'il y a un appel que les sapeurs-pompiers de suite vont ensuite décaler, mais pour autant, ce que l'on constate, c'est que il y a des interventions qui aujourd'hui sont un petit peu, on va dire, atypiques et qui nous demandent beaucoup plus de vigilance, et notamment sur ce qui s'est passé là il y a quelques heures dans les Pyrénées-Orientales, 9000 m² déjà partis en fumée. C'est pas que c'est anodin, mais disons qu'on est maintenant un peu plus sur le qui-vive par rapport à des risques de propagation d'incendie beaucoup plus importants avec cette déshydratation et ce stress hydrique qu'ont les végétaux et qui permettent aujourd'hui
donc il y a un double front pour vous, quoi, en fait.
Il y a
les incendies.
On est sur tous les fronts quasiment tout le reste de l'année, mais là encore plus sur des périodes où effectivement, malheureusement, c'est des incendies qui peuvent aussi démarrer. Là, on a moins de disponibilité pour les sapeurs-pompiers volontaires, et donc ce qui fait que en termes de réponse, on essaie toujours d'adopter l'attaque massive sur feu naissant, comme vous l'entendrez encore cet été. J'espère pas trop, mais qui veut dire aujourd'hui qu'on est encore sur des gestions d'observation, des gestions de déploiement stratégique. Mais on n'est pas du tout encore sur la phase la plus haute, c'est-à-dire avec une saison feu de forêt qui a tendance chez nous à commencer un petit peu plus tard. Là, aujourd'hui, on est sur un sujet où effectivement la précocité des températures nous demande de la vigilance et de l'adaptation permanente.
Justement, mais vous recevez pas mal d'appels en ce moment pour les personnes isolées ou à cause du mal logement et les gens qui sont incommodés chez eux à cause de la chaleur.
On commence effectivement à s'inquiéter lorsqu'il y a de l'inquiétude d'une manière générale.
C'est
aujourd'hui, voilà. Mais aujourd'hui, il y a aussi des sujets que les municipalités laitiers ont permis de déployer suite aux différents retours d'expérience qu'ils ont pu avoir, notamment en 2003 ou autre. C'est le sujet de l'isolement des personnes les plus âgées et c'est le moment aussi où les services sociaux des mairies font des recensements. Ça se fait beaucoup dans le sud de la France, des personnes qui sont isolées pour qu'à tout instant et à tout moment, ils peuvent agir, apporter de l'eau et puis casser cette solitude qui a tendance aussi malheureusement à tuer dans ce genre de situation.
Alors, on parlait des coups de chaleur et bien sûr, dans ces cas-là, on a envie de fraîcheur. On a envie d'aller vers les zones où il peut y avoir de quoi se baigner. On va retrouver Thomas Girard en direct d'Angoulême pour BFM TV. Parce que si on cherche des plans d'eau, il y a toujours aussi l'avertissement. Attention aux noyades, attention à l'hydrocution, au choc thermique.
Tout à fait. Alors déjà, juste du côté d'Angoulême, il fait actuellement 34 degrés, ressenti 35. Il faut être très vigilant face à cette vague de chaleur qui traverse la France. Certains cherchent des endroits pour se rafraîchir, comme sur cette base de loisirs où je me trouve depuis ce matin. Et il faut savoir, c'est que sur cette base de loisirs, le poste de secours est fermé. Cette plage est donc sans surveillance, malgré le monde que l'on peut trouver sur place depuis maintenant 3-4 jours. Et pour faire face à cette température, ce sont évidemment des dizaines de personnes qui se baignent dans ce plan d'eau. Et ici, le risque est bien sûr l'hydrocution qui est particulièrement élevé. Il faut donc être très vigilant à la température de l'eau et à la température de l'air qui peuvent être très différentes. Il faut donc rentrer doucement dans la zone de baignade pour éviter tout simplement le fameux choc thermique. Alors, la vigilance qui est donc mise en place depuis plusieurs jours, et ce sont 13 départements de l'Ouest qui sont placés en vigilance orange canicule dans les prochaines heures. Il faut donc faire très attention.
Merci Thomas Girard en direct d'Angoulême pour BFM TV. Et puis Margot Fauville, pardon.
Entre ces pics de chaleur et ces noyades, l'an dernier, on avait eu une vigilance orange ou rouge qui s'était étalée quasiment sur 3 semaines entre le 19 juin et le 6 ou 8 juillet. Il y avait une augmentation 106 noyades suivies de décès juste sur cette période. Ça fait 170% de plus que la même semaine l'année précédente. Donc toujours une extrême vigilance et on se méfie peut-être moins des plans d'eau qui représentent quand même la moitié des noyades, des décès par noyade.
Et puis il y a aussi la surveillance des patrouilles de police municipale et des patrouilles de sécurité dans les parking et devant les voitures aussi en ces périodes de chaleur intense. Il y a une vidéo qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, c'est celle d'une femme qui avait laissé son chien dans le coffre de la voiture, le temps pour elle de faire ses courses dans un centre commercial de Lyon, et c'est alerté par les jappements de l'animal que les équipes de sécurité ont réussi à retrouver la propriétaire et ensuite à l'amener devant la voiture.
Aïe, aïe, aïe.
Il a l'habitude d'être ruiné. Vous savez qu'il y a l'air, madame, dans cette coffre.
Ça faisait 3 heures quasiment que le chien était dans le coffre de la voiture et les équipes de sécurité ont failli casser la voiture, justement casser la vitre arrière de la voiture pour sortir le chien.
6 millions de vues hein, sur les réseaux sociaux, ça a beaucoup ému.
Oui, il faut dire qu'il y a près de 10 millions de chiens de compagnie en France, près de 16 millions de chats. Les Français, plus de la moitié des Français ont un animal de compagnie, donc c'est un sujet auquel ils sont très attachés et dans ce cas précis, on rentre dans ce qu'on appelle un mauvais traitement, c'est-à-dire que on a privé l'animal de nourriture, d'eau, ou on l'a placé dans un habitat, un environnement pouvant être cause de souffrance, de blessure ou d'accident. Ce genre de comportement est passible d'une amende de 750 euros. Et c'est vrai que dans un environnement comme celui-ci, dans un parking souterrain où il peut faire extrêmement chaud, l'animal peut très vite se déshydrater. Et ça se manifeste souvent par une respiration accélérée, parce que vous savez, les chiens ne savent pas transpirer, ils sont obligés de transpirer par la bouche, par la langue, et donc c'est l'échappement ou le fait de respirer très rapidement, c'est un signe de déshydratation.
Et cette personne peut être poursuivie ?
Oui, tout à fait. Si, alors on n'en est pas encore là, selon les informations du service police justice de BFM TV, mais c'est tout à fait possible qu'une plainte soit déposée.
Bien évidemment, en ces périodes de canicule, du côté du gouvernement, on réfléchit, on regarde, on aura une réunion jeudi, mais c'est vrai que c'est...
C'est curieux jeudi, alors que l'épisode a démarré lundi, pas hier.
Ça a surpris hier, en effet, cette communication de Matignon qui annonçait cette réunion autour du Premier ministre seulement jeudi. C'est vrai que jeudi, on sera... plutôt au début de la deuxième partie de cet épisode, si je vous ai bien suivi, Virginie.
C'est pour faire le bilan, peut-être.
L'essentiel sera déjà passé. Alors, il y a peut-être la volonté à ce moment-là de faire, en effet, une forme de bilan de ce qui se sera passé ces derniers jours et peut-être de prendre des décisions. Tout à l'heure, la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, qui a assisté à une réunion d'une cellule de crise au niveau de son ministère, a dit que le temps des décisions, notamment sur les fermetures d'établissements ou sur l'opportunité d'annuler des événements sportifs, il serait davantage le temps de cette réunion avec les différents ministres concernés, avec le Premier ministre. On sait que sur la question des événements sportifs et le maintien d'événements en plein air, c'est sur ce point qu'il y a parfois des remarques qui ont été faites sur la gestion de cet épisode depuis dimanche.
Bah oui, parce que les rendez-vous sportifs, c'était surtout ce week-end de la Pentecôte.
Évidemment, le week-end de la Pentecôte, et ils étaient pour le coup maintenus. Et on sait qu'il y a eu 2 décès qui ont été liés
donc,
à l'organisation
un retard à l'image,
de ces
donc.
Événements. Est-ce qu'il y a eu un retard sur ce sujet ? Il y aura peut-être des réponses du gouvernement à ce moment-là. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est à l'adresse notamment du public sportif que la ministre de la Santé a tenu tout à l'heure à adresser un certain nombre de messages de vigilance.
Il y a aussi la question des écoles, parce qu'on peut s'émouvoir d'un chien dans un coffre, mais enfin, nos enfants sont à l'école, parfois dans des salles de classe où il fait 40 degrés. On a l'impression que les leçons ne sont pas tirées et chaque année, on dit un peu la même chose. Que dit Édouard Geffray, le ministre de l'Éducation nationale ? Il est prêt à fermer peut-être des classes, là ?
Récurrence de ce sujet, en effet, alors que les épisodes sont plus tôt que d'habitude. Mmh. C'est vrai qu'on avait parfois l'habitude de gérer davantage au gouvernement ces épisodes au cœur de l'été. Donc, la question des événements...
Ça s'est posé au moment du bac, souvenez-vous, en juin.
Bien sûr, en juin l'année dernière, c'était déjà le cas. Ça fait plusieurs années, en effet, que les épisodes sont plus précoces qu'auparavant et que ces ministres donc sont aussi associés à ces questions. Le ministre de l'Éducation nationale qui a tenu dans un premier temps à temporiser, mais c'est vrai que là aussi des questions pourront se poser dans les
pas
prochains jours.
Pas de plan clim dans les écoles par exemple.
Ça n'est pas encore là, on n'en est pas encore
les
à ce niveau là
qui avaient fermé
de généralisation.
L'année dernière,
l'épisode était, si ma mémoire est bonne, plutôt en juin.
Fin juin, début juillet aussi.
Ouais. Pour rappeler que les écoles, c'est géré par les mairies, hein, c'est l'aménagement des écoles, les collèges, les départements et les lycées, les régions. Donc alors, ce sont aux collectivités de faire en sorte qu'il y ait des îlots de fraîcheur, etc., dans les écoles. Et là, on en a encore loin. François Pitrel peut confirmer. Dans les écoles, il y a encore du boulot.
Non, mais ça commence à se développer. Les cours oasis, on appelle ça.
On remet des arbres.
Et on met aussi des revêtements qui sont plus clairs et qui absorbent un peu moins la chaleur, qui la renvoient. Et donc, ça donne un environnement plus frais, même si, évidemment, il fait très chaud ces jours-ci.
Puisqu'on était sur le volet politique, on va voir maintenant avec Julien Migaud-Muller que l'anticipation, c'est pas le fort du gouvernement. On est même plutôt, en ce moment, sur... les reculades. Hein, d'ailleurs.
Oui, en effet. D'ailleurs, le premier symbole dont je voulais vous parler, symbole de ce recul, ce sont les fameuses ZFE, les zones à faible émission, conçues en fait pour exclure progressivement les véhicules les plus polluants des villes. En 2025, l'Assemblée acte leur suppression. Et rebondissement, il y a quelques jours, eh bien, le Conseil constitutionnel a censuré cette suppression pour des raisons de procédure. Il n'empêche que le signal politique de recul reste très fort. Un exemple d'ailleurs à Lyon, qui a repoussé l'interdiction, regardez, des critères 2 de 2026 à 2028. Et ce n'est pas la seule métropole. Autre symbole des reculades politiques sur le sujet, les fameuses passoires thermiques. La France a lancé, souvenez-vous, un calendrier très strict contre les logements dits énergivores. Depuis janvier 2025, les logements classés G, théoriquement, sont interdits à la location. Sauf que, face à la crise du logement et la colère des propriétaires, eh bien, plusieurs assouplissements ont été envisagés ou déjà annoncés. Déjà, une dérogation pour certaines copropriétés, une réforme également du DPE qui a fait sortir au moins 700 000 logements du dispositif. Et puis, il y a aussi des discussions pour suspendre certaines interdictions. Le troisième symbole, c'est la limitation de la bétonisation des terres agricoles et naturelles. Là aussi, ça a été assoupli. Des textes ont été votés l'année dernière qui permettent davantage de dérogations pour des projets qui sont jugés stratégiques ou d'intérêt national. Pourquoi ? Eh bien, parce que beaucoup d'élus locaux dénonçaient un dispositif impossible à appliquer chez eux dans les territoires ruraux. Enfin, parlons des reculades au niveau européen, parce que Bruxelles a reculé ces derniers mois sur plusieurs sujets sous la pression des agriculteurs. C'est le fameux Green Deal qui n'aura pas lieu. Plusieurs mesures assouplies, regardez notamment les règles sur les jachères, la réduction des contrôles environnementaux et l'assouplissement des exigences de la PAC, la politique agricole commune. Plusieurs gouvernements européens ont aussi suspendu ou retardé les taxes carbone agricoles ou des restrictions sur certains produits phytosanitaires. Tout cela dans un contexte où l'essence n'a jamais été aussi chère. Les politiques d'ailleurs semblent s'en émouvoir, mais clairement ne font pas grand-chose. Mais ce que l'on constate, eh bien, c'est que les Français roulent moins, regardez, et donc polluent moins. L'achat de carburant a chuté de 30% les deux premières semaines de mai. C'est peut-être ça finalement la solution.